Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. Une émission préparée avec Bertille Bourdon, Léa Capuano, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard et Nora Litoussi. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. Comme chaque vendredi, notre séquence Retour de terrain, dédiée au reportage, avec aujourd'hui Maria Malagardis, qui revient du Rwanda, et puis notre table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde. Bonjour Marc Sémo.
Bonjour.
À nos côtés, comme chaque vendredi, pour animer la discussion, nous reviendrons ce matin sur la victoire de l'opposition en Turquie lors des élections municipales de la semaine dernière. Alors qu'il avait échoué à remporter la présidentielle il y a un an, le CHP, fondé en 1923 par Mustafa Kemal, le père de la nation, vient de s'imposer dans la plupart des grandes villes turques. Est-ce le début d'une alternance politique qui se dessine en Turquie après 20 années de domination de l'AKP? Quel projet alternatif l'opposition a-t-elle à proposer? Nous en discuterons avec nos invités. Aysegül Sert, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes journaliste, correspondante de plusieurs journaux en Europe et aux États-Unis, enseignante également à l'école de journalisme de Sciences Po. Vous revenez de Turquie où vous avez couvert ces élections. Et puis, nous serons rejoints par la chercheuse Dorothée Schmidt, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place au retour de terrain. Et la journaliste que nous recevons ce matin revient du Rwanda. Bonjour Maria Malagardis.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Vous êtes grand reporter à Libération. Vous publiez ces jours plusieurs reportages sur les 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Chaque année, à partir du 7 avril et jusqu'en juin, le pays se souvient de la haine meurtrière qui s'est propagée sur tout le territoire, provoquant la mort de près d'un million de personnes, des enfants, des femmes, des hommes de tous âges, assassinés en raison de leur appartenance à un groupe ethnique, une catégorie forgée arbitrairement par les anciens colons. 30 ans plus tard, comment le traumatisme continue-t-il de hanter les survivants et leurs descendants? Quelle place pour la transmission de la mémoire dans un pays où cohabitent les anciens bourreaux, leurs victimes et leurs descendants? Ce sont ces questions qui parcourent vos reportages, Maria Malagardis. Et l'un des lieux principaux de cette transmission de la mémoire, eh bien, c'est l'école. Comment enseigne-t-on l'histoire du génocide au Rwanda aujourd'hui?
Alors, l'enseignement de l'histoire du génocide juste après la tragédie, a posé plusieurs défis. D'abord parce que, incontestablement, l'école a joué un rôle fondamental pour enraciner l'idéologie génocidaire à partir de l'indépendance, jusqu'au génocide de 1994. Et ensuite parce que, comme vous le dites, ces ethnies n'en sont pas. Partout en Afrique, une ethnie se définit par une zone géographique, par une langue, par des croyances qui permettent de différencier les ethnies entre elles. Or, au Rwanda, c'est la même langue, tout le monde parle le kinyarwanda. Il n'y a pas de région qui soit Hutu ou Tutsi, et la culture et les croyances sont les mêmes. Donc, ces constructions qui ont mené au pire, juste après le génocide, on décide de les supprimer. C'est-à-dire que la référence à Hutu et Tutsi, bien sûr, elle existe toujours en privé dans les familles, mais officiellement, on ne désigne plus les uns et les autres comme Hutu ou Tutsi, tout le monde est rwandais. Il n'y a plus de mention ethnique sur la carte d'identité qui avait en fait permis d'identifier les victimes pendant les 3 mois du génocide, hein, parce qu'en réalité, rien n'est évident pour distinguer les Hutus et les Tutsis. Donc le paradoxe, c'est comment, à partir du moment où on décrète officiellement que tout le monde est rwandais, comment on raconte cette histoire sans stigmatiser une communauté qui n'a peut-être pas participer dans sa totalité au massacre, mais c'est en son nom, c'est au nom de la communauté Hutu que les extrémistes Hutus ont décidé d'exterminer les Tutsis. Donc voilà, c'était ça le problème, et un ancien ministre haut fonctionnaire au Rwanda m'a expliqué que en 94, on a par exemple à la rentrée 94, donc 2 mois après la fin du génocide, on a supprimé le cours d'histoire. C'était trop compliqué, trop sensible, et il a fallu plusieurs années pour définir un cursus qui permette que tout le monde s'y retrouve, en fait. qu'il n'y ait pas de stigmatisation, mais qu'en même temps, on dise la vérité.
Vous le racontez, notamment via la voix de cet ancien ministre, la construction des manuels d'histoire a pris des années. Est-ce qu'aujourd'hui, elle fait consensus et aujourd'hui, notamment auprès des jeunes garçons que vous visitez, par exemple, dans cet internat à Nyundo, au nord-ouest du pays, qu'est-ce que les jeunes retiennent de l'histoire qu'il leur est enseignée? Comment en parlent-ils, eux, qui n'ont pas connu le génocide, qui sont nés après?
Alors, c'est assez curieux parce que, en fait, quand on les interroge, ils en parlent en apparence de manière assez désincarnée. C'est-à-dire, bon, ils ont appris les causes du génocide, comment cette idéologie s'est enracinée dans les esprits, le rôle de la propagande dans les dernières années, le rôle de l'impunité, puisque en fait, depuis l'indépendance, tuer des Tutsis n'était jamais puni. Donc, ils apprennent ces notions-là, mais en réalité, c'est comme si ça appartenait, mais en apparence, à un passé lointain. Et ça, je pense que c'est, en tout cas, la volonté, les directives scolaires qui sont comme ça, qui font que, certes, on évoque, on dit qui sont les victimes et les bourreaux, comme me l'explique d'ailleurs un prof d'histoire à Nyundo, mais il y a une grande insistance plutôt sur les leçons à tirer de la tragédie, le fait qu'il faut se distancier de cette période. Après, quand on fouille un peu, et un historien qui est devenu le président de la principale association des rescapés l'avoue lui-même, dans les têtes et dans l'intimité des familles, c'est bien sûr différent. Et on sait bien que, en fait, chacun transmet, là je parle des familles, des parents, chacun transmet sa part de vécu à ses enfants, avec ce qui est dit et qu'on ne peut pas connaître forcément, et aussi les silences qui se posent parfois problème pour les jeunes générations.
Oui, parce que cette transmission, elle est encore douloureuse. Un jeune homme vous dit, on en apprend plus sur le génocide à l'école qu'à la maison. Il s'appelle Edouard, c'est un enfant de rescapé. Vous interrogez aussi le chanteur et rappeur franco-rwandais Gaël Faye, qui vit au Rwanda et qui vous dit, ils ont du mal à transmettre une histoire si douloureuse. Il y a toujours un moment où les questions s'arrêtent, où il faut pouvoir interpréter les silences.
Alors, il y a d'abord, de toute façon, il y a plusieurs catégories de Rwandais. On va dire les enfants de rescapés, ou plutôt les rescapés eux-mêmes, ont un réflexe qu'on a bien connu après la Shoah, où aussi ceux qui sortaient des camps avaient souvent du mal à raconter cette histoire à leur descendance, à leurs enfants. Il y a toujours c'est pas un tabou, mais cette sensibilité assez extrême qui fait qu'on veut d'un côté peut-être pas raviver le chagrin, qu'on veut pas transmettre le chagrin non plus. Donc ça, c'est un réflexe, je pense, qu'on retrouve assez fréquemment après des tragédies aussi majeures et a fortiori après des génocides. Après, du côté des enfants des bourreaux, il y a certainement aussi des silences et qui sont liés, à la difficulté d'assumer cette part d'histoire. Donc effectivement, l'école a ce rôle à la fois de transmettre cette histoire, de changer les esprits, puisque encore une fois, c'est via l'école que s'est transmise l'idéologie génocidaire. Et il y a une autre femme qui me raconte que jusqu'au moment du génocide, et depuis qu'elle était toute petite, et elle avait 15 ans au moment du génocide, et ça c'est un récit qu'on entend très souvent, à l'école, le matin, le professeur demandait aux élèves de se lever et de se désigner par leur ethnie. Or, il faut savoir que même avant le génocide, où on avait donc les cartes d'identité avec les mentions ethniques, les enfants n'avaient pas de carte d'identité. Et donc, on obligeait les enfants à intégrer la différence entre eux. Et évidemment, ceux qui étaient Tutsi, le regard ou les réflexions du professeur montraient bien que c'était une infamie. Donc, l'école a dû faire face au défi de reconstruire toute cette pédagogie en évitant les ethnies, en rassemblant les gens, mais en disant en même temps les faits tels qu'ils sont. Et puis il y a aussi autre chose, il y a une C'est vrai que les autorités rwandaises ont aussi souvent tendance à dire, voilà, sauf pendant la période de commémoration, le génocide appartient au passé, et maintenant nous allons de l'avant, il faut regarder le développement économique, c'est ça qui doit nous mobiliser, etc. Donc c'est un discours qu'on entend souvent, surtout dans la grande ville qui est Kigali, un peu moins dans les campagnes où évidemment, comme partout dans le monde, les gens sont plus conscients de leur passé, du rôle de qui a fait quoi parmi les voisins. Voilà, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois il faut préserver la mémoire, inciter les jeunes à s'en distancier pour ne pas raviver les tensions du passé, et essayer d'aller de l'avant.
Et ça, c'est une tension. Quand vous parlez de, est-ce qu'on peut parler d'une injonction presque à tourner la page? Et est-ce qu'il finalement il y a une différence entre les moments, comme par exemple la semaine du 7 avril là, qui va arriver, qui sont des moments de mémoire très forts, les lieux comme les lieux de mémoire comme le mémorial de Kigali, et puis le reste du temps, la vie au Rwanda, où là il y aurait une injonction à tourner la page?
Oui, on peut dire qu'il y a une injonction à tourner la page.
Et ça, c'est sûr. Est-ce que c'est source de malaise ou de tension pour certains, pour les rescapés, leurs enfants?
Pour les rescapés, effectivement, ça reste quand même par moments très violent. Parce qu'il faut comprendre que les rescapés, on parle de familles qui ont été entièrement effacées, comme ils disent, plutôt qu'exterminées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu jusqu'à 10 frères et sœurs, jusqu'à 50 cousins, leurs parents, plus le traumatisme de la violence et de la cruauté intense qu'ont été ces trois mois du génocide. Donc ils se retrouvent souvent seuls ou quasi seuls. Ils ont souvent perdu leurs biens parce qu'il y a eu aussi beaucoup de pillages. Et l'idée d'aller de l'avant alors qu'eux se débattent... Alors il y a des programmes pour les aider, hein, pour subvenir à leurs besoins. Mais ils se débattent souvent dans des conditions de précarité quand même assez fortes, encore aujourd'hui, 30 ans après. Et donc, voilà, l'idée que le Rwanda va de l'avant, qu'il faut regarder que devant, qu'il faut... Effectivement, le Rwanda est aussi... c'est ce que dit, il me semble, Gaël Faye dans l'interview que je fais. Il dit, qui aurait pu imaginer en 94, dans ce pays qui était en ruine, qui était un charnier... à ciel ouvert, faut imaginer ce que ça veut dire, 1 million de morts. Hein. C'est moi, j'y étais même pendant le génocide. On sentait la mort en plein air, l'odeur de la mort imprégnait tout le paysage. Donc, qui aurait pu imaginer que ce pays qui était dans cet état de dévastation il y a 30 ans ait pu renaître de ses cendres, soit aujourd'hui non pas un pays développé, il y a encore beaucoup de pauvreté, mais en tout cas se présente et souvent reconnu comme un modèle de développement économique qui a pu de modernisation accélérée qui dans l'ensemble fonctionne, mais du coup les traces s'effacent, surtout à Kigali. À part le mémorial, il y a très peu d'endroits où on a encore le souvenir des fantômes du passé. Mais dans le cœur des rescapés, eux, ils voient les lieux encore où il y avait des barrages, où il y avait des fosses communes, où on emmenait les gens pour se faire tuer. Donc il y a voilà ce paradoxe entre une modernité, une volonté d'aller de l'avant et un passé qui pèse effectivement très lourd.
Et ce passé, Maria Malagardis, il y a aussi l'enjeu de le transmettre aux étrangers et justement au mémorial de Gisozi à Kigali. Vous suivez un groupe de 24 élèves de terminale du lycée Thierry Molnier de Nice. Comment ces lycéens français se sont-ils retrouvés en voyage scolaire au Rwanda?
Alors, ça n'aurait pas pu être possible il y a 10 ans, même il y a un peu plus de 5 ans, parce que les relations entre la France et le Rwanda au sortir du génocide étaient exécrables, notamment en raison du soutien de l'Élysée au régime qui va conduire au génocide, entre les années 90 et 94, voire même peut-être un peu après. Ce soutien militaire, diplomatique, politique que Paris accordait à un régime ouvertement raciste qui stigmatisait une partie de sa population depuis longtemps et de plus en plus plus on approchait de la tragédie a évidemment pesé sur les relations franco-rwandaises, d'autant plus qu'il y avait il y a longtemps eu un déni de Paris, de la part de Paris. Il y a eu une amorce de changement avec Nicolas Sarkozy. Puis elle a été enterrée par François Hollande et Emmanuel Macron, en revanche, a eu des positions, on va dire, plus audacieuses.
Il s'est à nouveau exprimé sur le sujet.
Il s'est d'ailleurs, il a marqué un nouveau pas aujourd'hui en disant que effectivement la France aurait pu empêcher le génocide et ne l'a pas fait. Jusqu'à présent, il avait reconnu en 2019 il avait mandaté une commission d'historiens qui a fini par conclure en 2021 aux responsabilités lourdes et accablantes de la France au Rwanda, ce qui était déjà un pas très important. Et dans la foulée, dès 2019, en fait, le génocide des Tutsis au Rwanda a été inscrit au bac en France. Du coup,
donc
ces lycéens sont venus dans le cadre de ce programme et avec deux enseignantes particulièrement dynamiques qui ont su mettre en place ces voyages d'études et permettre à ces lycéens de se confronter au lieu de mémoire et à la réalité de ce pays qu'ils étudient en cours.
Et d'ailleurs, dans les salles du mémorial, ils croisent un portrait de François Mitterrand. Ils voient aussi des photos de militaires français qui étaient présents sur le terrain en 1994. Comment réagissent les lycéens, alors à ces photos, mais aussi de manière générale à ce qu'ils apprennent, à la fois sur la mécanique de la mise en place de la haine, c'est ce que retrace le mémorial, et puis aussi sur, évidemment, ses conséquences dans toute leur violence.
Quand ils arrivent au Rwanda, ils ont déjà des notions. C'est pas une découverte, ni le rôle de la France, ni l'ampleur de la tragédie. Mais évidemment, c'est autre chose de se confronter au réel. Alors, je crois pas que je le mentionne dans le reportage, mais moi, je les ai interrogés sur le fait de voir la photo de Mitterrand, des militaires français qui font des sélections au barrage au Rwanda juste avant le génocide. Quel effet ça leur fait? Et la réponse était: alors là, c'est un peu d'ailleurs l'équivalent peut-être des lycéens rwandais. C'est une certaine distanciation. Il y a une jeune fille qui m'a dit: « Oui, mais ça, c'est la France ancienne. C'est l'ancienne France. C'est ce qui se passait avant. » Voilà, c'est pour eux, c'est aussi de l'histoire, en fait. En revanche, ils se sont montrés beaucoup plus, c'est naturel, parce que c'est quand même de jeunes enfants, hein, ils ont 17-18 ans, des jeunes adolescents, on va dire, qui sont en train de devenir adultes, mais qui sont encore, jeunes dans leur formation, on va dire, dans leur expérience. Évidemment, il y a des moments qui, pour eux, ont été beaucoup plus sensibles, et notamment, c'est vrai qu'au mémorial de Guy Sozy, il y a ces salles qui sont assez particulières. Il y a l'équivalent, d'ailleurs, je crois, au mémorial de la Shoah à Paris. Les salles qui concernent les enfants qui ont été tués. Et au mémorial de Guy Sozy, il y a des portraits d'enfants avec leur nom, leur âge, et ce qu'on a pu savoir de ce qui les caractérisait avant et la manière dont ils ont été tués. Et le contraste entre David rêvait de devenir, 10 ans rêvait de devenir docteur, et mort en avril 94, torturé à mort, évidemment est très, même pour les adultes, hein, c'est très sensible. Et on sentait bien que dans ce passage du mémorial, ils ont été effectivement très, très émus.
Quand c'est cassé, fais son malin, elle veut câlin, je fais le gamin. Je suis dans le truc, je suis dans ma chambre, j'ai le bras long, elle me donne sa main.
C'est ma jolie madame, même devant le miroir, y'a pas de comme toi. Ma jolie madame, tu peux chercher, mais y'a pas de comme moi.
Elle veut du bouche à bouche, il faut que je touche son pouce.
Tout le temps, elle me parle d'amour, elle veut faire tout pour nous. C'est qu'on est bon qu'à ça, hein. C'est qu'on est bon qu'à ça, hein. C'est qu'on est bon qu'à ça, ouais. On est bon qu'à ça, ouais, oh.
Parle-moi de vie, ne parle pas de sentiments. C'est pas avec amour qu'on achèverait ton nom. C'est dommage pour mon aigle, j'ai tel toujours ton passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé.
Petit génie par Young Eli, Imen S. Alonso, Abou Debeying et Lossa. C'est l'un des tubes de l'année 2023 diffusé en France mais aussi au Rwanda. Cette chanson, vous l'écoutez avec les jeunes Français en voyage scolaire au Rwanda. Mariama Lagardis, quel souvenir évoque-t-elle de votre reportage ?
Alors ça, c'est les charmes de la mondialisation, on va dire, parce que c'était un moment où les lycéens du lycée Thierry Monnier de Nice donc se sont retrouvés face d'abord à des femmes qui avaient été violées pendant le génocide, hein, c'était un moment très difficile, puis face à des enfants de rescapés qui évoquaient justement les silences et les chagrins dont on a parlé tout à l'heure. Et c'était assez drôle de voir, parce que en apparence déjà ils se ressemblent tous, hein, ils portent les mêmes vêtements un peu sportswear qui sont à la mode chez les ados aujourd'hui. Et puis à un moment le face à face est un peu détendu, tout le monde était invité à manger à un buffet, et puis quelqu'un a mis une sono, a mis cette chanson, et là comme par magie spontanément ils se sont tous, petit Rwandais et jeune Rwandais et jeune Français, ils se sont tous levés pour danser ensemble. Et c'était un moment assez assez attendrissant.
Merci. Merci beaucoup, Mariama Lagardis. Vos reportages sur les 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda sont à lire dans Libération. Je signale aussi la sortie de votre roman Avant la nuit. C'est publié aux éditions Talent. Et puis votre documentaire co-signé avec Michael Sanke et Simus Halley, Rwanda vers l'apocalypse. C'est diffusé ce dimanche sur France 5 à 21h. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et direction à présent la Turquie.
France Culture. Culture Monde. Mélanie Chalandon.
Nous analyserons ouvertement les résultats des élections du 31 mars au sein de notre parti et ferons notre autocritique avec audace. Bien qu'il ne soit pas encore finalisé, les résultats des élections nous montrent que nous vivons une perte de terrain dans les administrations locales à travers le pays. Bien sûr, nous discuterons des raisons de ce déclin que nous constatons au niveau local. Le 31 mars n'est pas une fin pour nous, mais un tournant.
Déclaration du président Recep Tayyip Erdogan qui a reconnu l'échec de son parti lors des élections municipales du 31 mars. Échec à reconquérir la principale ville du pays, Istanbul, aux mains de l'opposition. Échec à mobiliser son électorat, y compris dans les bastions historiques du parti islamo-conservateur. Pour l'opposition, au contraire, ces élections municipales sont une victoire. Un an après son désaveu au présidentiel, le CHP, le Parti Républicain du Peuple, fondé il y a 100 ans par Mustafa Kemal, espère mettre fin à la domination de l'AKP sur la vie politique turque. Mais y a-t-il vraiment une dynamique en faveur de l'opposition, ou bien celle-ci a-t-elle avant tout profité de la déception des fidèles du président Erdogan ? Quel projet alternatif le CHP a-t-il à proposer pour la Turquie ? Que nous dit cette élection de l'état de santé de la démocratie en Turquie ? On discute de toutes ces questions avec Aysegül Sert et Dorothée Schmidt. Et puis on commence avec l'édito. Et de Marc Sémon, bien sûr.
Merci Mélanie. Alors oui, c'est une débâcle électorale sans précédent pour Recep Tayyip Erdogan, et ça annonce le crépuscule du pieux et de son parti islamo-conservateur qui est au pouvoir depuis 22 ans. Pour la première fois depuis 1977, le CHP, le Parti Républicain du Peuple, qui a été fondé par Atatürk, s'affirme comme la première force politique du pays, avec 37 et quelques pourcents des suffrages. Alors, ce scrutin municipal, où Erdogan s'était engagé à fond, avait évidemment une valeur de test national, un an après sa laborieuse réélection à la présidentielle. Il montre qu'une alternance politique est possible, dans une Turquie devenue une démocratie libérale, mais Si elle est une démocratie libérale, elle n'est pas pour autant une dictature comme la Russie de Poutine, malgré les points communs entre ces deux hommes forts et leur volonté néo-impériale. En matière de gestion municipale, qui était un des grands points forts du parti Erdogan depuis trois décennies, le GAP a su montrer son efficacité à Istanbul comme à Ankara. Mais l'enjeu est aussi géostratégique dans ce pays qui est un pilier du flanc sud-est de l'OTAN, au carrefour des foyers de crise du vieux monde comme le Moyen-Orient et l'espace post-soviétique. Il reste maintenant à l'opposition, et notamment au GAP, sa principale composante, jusqu'ici peu audible sur ces thèmes, à se crédibiliser. Il s'agit d'affirmer clairement son choix pro-européen, alors que le processus d'adhésion à l'Union est plongé dans un coma profond. Ce ne sera pas simple dans une Turquie où les sentiments nationalistes ont le vent en poupe, attisés depuis des années, notamment par le parti d'Erdogan, et où la question kurde reste toujours aussi cruciale.
Merci beaucoup, Marc Semo. Peut-être pour commencer, on est presque une semaine après les résultats de ces municipales. Est-ce qu'avec un peu de recul, Dorothée Schmidt, on en sait plus sur les voies perdues de l'AKP, sur les territoires, sur les parties de la population où le parti a le plus reculé?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Alors, la Turquie, c'est un pays où il y a une énorme participation aux élections. Depuis deux décennies, on se disait que le cœur de l'électorat de l'AKP, l'électorat vraiment super fidèle, c'était à peu près 30% des électeurs. Et finalement, c'est là qu'on est arrivé. C'est cette espèce d'étiage auquel on est arrivé.
Donc, dans le noyau dur.
Oui. Ça veut dire que, et encore ce noyau dur a été un petit peu grignoté par le Yeniden Refah, qui est le nouveau parti islamiste, dont on reparlera peut-être, qui a été fondé par le fils du mentor de Tayyip Erdogan. Donc il y a eu un peu d'abstention des électeurs de l'AKP. Il y a eu effectivement des effets de dégagisme avec une vraie problématique de l'AKP à désigner les bons candidats. Il y a un problème de renouvellement des personnalités à l'AKP qui est très clair. Il y a une jeunesse turque, on a à chaque fois des millions de nouveaux primo-votants quand on a des élections en Turquie, qui n'a connu que l'AKP et qui donc va voter aujourd'hui pour d'autres partis parce qu'il y a une lassitude. Je pense qu'il y a deux phénomènes très importants, c'est à la fois l'usure du pouvoir pour l'AKP quand même, la difficulté de renouvellement programmatique, et puis la lassitude des électeurs de les voir sans cesse présents alors que on est quand même dans un contexte de démocratie compétitive, on le voit au moins quand il y a des élections. Femmes aussi, bien sûr.
Il y a un an, lors des présidentielles et législatives, les sondages avaient prévu une défaite de l'AKP et de Erdogan. Et finalement, cette élection a été remportée par Erdogan. Un an après, il perd les municipales. Est-ce que ça veut dire, par rapport à ce que vous disiez, Dorothée Schmidt, que finalement, les électeurs ont surtout sanctionné le parti davantage que le président, Ajay Gülsert?
C'était très intéressant. J'étais à Istanbul. D'abord, il y a presque un an, avant les élections présidentielles. Et là, je viens de rentrer, il y a quelques jours, d'Istanbul, à nouveau, où il y a eu les élections municipales. Il y a un an, tout le monde, je dirais, en tout cas, la plupart des personnes avec qui vous parliez, il y avait un tel espoir dans l'air. C'était où on était plus ou moins sûr, surtout après le séisme de l'année dernière, du mois de février qu'on a eu, qu'il y aurait un changement de régime. Ça a été une grande déception pour beaucoup de gens à travers le pays, je pense. Cette fois-ci, quand j'ai demandé pendant mes reportages la semaine dernière qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer, les gens avaient peur de donner leur avis parce qu'ils ne savaient plus dans une Turquie où ça peut rebondir, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Ils ne voulaient absolument pas dire dans quel sens ça pouvait aller parce qu'ils n'avaient pas d'idée. Et c'est ça qui a abouti à cet effet de choc le dimanche soir, quand les résultats ont commencé à montrer, qu'on a eu un résultat, comme disait Marc Semo dans sa chronique, qu'on n'a pas eu depuis 1977 pour JEP, le parti républicain fondé par Kemal Atatürk. Et il y a aujourd'hui, depuis, un tel choc, surprise, mais aussi une possibilité d'un côté qu'un changement est possible, que peut-être les 22 ans de pouvoir arrivent à sa fin, mais d'un autre côté, cette réalité de la Turquie où, à tout moment, tout peut basculer parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir comme crise, comme événement. Et moi, la dernière chose que j'aimerais dire, Quand je suis rentrée mardi soir, j'avais mes étudiants à Sciences Po et j'ai des étudiants qui, comme disait Dorothée Schmidt, qui sont nés en 2002 et qui n'ont des élèves turcs qui n'ont vu aucun autre régime que le régime d'Erdogan et qui ne savaient pas comment, quand je leur ai demandé comment analyser ce qu'ils ressentent, comment définir leurs propres émotions, parce qu'ils n'ont jamais eu une autre alternative que ce qu'on a vu aujourd'hui dimanche. Donc il y a un basculement, il y a un changement, mais il faut aller pas à pas, parce que ça peut, c'est un pays dont on parle qui peut aller dans plein de directions.
Marc Semo.
Alors justement, sur ce score historique du GAP, ce qui est effectivement inédit depuis 1977, alors c'est quoi? Parce que ce qui est frappant dans ce scrutin, c'est que toutes les autres forces de l'opposition qui s'étaient unies autour d'un candidat commun qui était celui du GAP, à l'époque Kemal Kılıçdaroğlu pour les présidentielles, ont été laminées. D'où ce score historique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a réellement aujourd'hui une force du GAP qui arrive petit à petit à se crédibiliser comme alternative et symbole de l'alternance, ou bien c'était juste un vote utile et que finalement les choses, les guéguerres internes, les factions, etc. vont continuer et puis bon voilà, ça aurait été un effet de loupe, y compris parce que d'ailleurs le GAP a fait de la bonne gestion municipale.
Je pense qu'il y a un désir de punir, en un sens, le AKP, le parti d'Erdogan, parce que l'économie ne va pas bien. Dorothée Schmidt parlait de taux de participation. De la part de ceux qui, normalement, votent AKP, il y en a beaucoup, un bon nombre, qui n'ont pas voté, qui se sont abstenus. C'était une manière de passer un message fort à ce parti d'Erdogan en disant le chemin sur lequel vous allez, on n'apprécie pas. Faut pas oublier qu'aujourd'hui en Turquie, un retraité gagne autour de 10 000 télés, ce qui fait quoi? 285 euros, c'est rien. L'inflation est à plus de 65%. Quand les poches sont vides, quand les estomacs sont vides, les gens ils sont d'accord pour prendre le risque du changement. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est pas que le CHP, le parti républicain, a fait un boulot qui était exemplaire. Je pense que c'est le AKP qui, depuis un bon moment, n'arrive pas à relever le niveau dont il était question il y a 10 ans.
Dorothée Schmidt, ça veut dire qu'il faut relativiser la dynamique politique dont serait porteuse l'opposition turque, parce que c'est quand même ça qui a saturé les titres de presse depuis la semaine dernière, grande victoire dynamique de l'opposition, donc c'est une victoire à relativiser en termes de dynamique.
Alors, sur l'aspect du travail accompli par le GP, je pense que Marc Semo a raison pour Ankara et Istanbul, parce que quand même Istanbul, c'est très impressionnant la façon dont İmamoğlu a creusé l'écart, alors que les sondages étaient très, très... Oui, absolument, mais Ankara, c'est pas tellement étonnant, parce que le candidat de l'AKP n'avait aucune chance, il était très mauvais, et Mansour Yavaş est très populaire. Sur Istanbul, on avait un gros enjeu, tout le monde sait qu'effectivement Erdogan était très fixé sur Istanbul, il a beaucoup fait campagne à côté d'un candidat qui était lui-même assez mauvais, qui n'était probablement pas un bon choix. Moi, je ne me souviens pas des élections de 1977, je n'étais pas encore dans le circuit, mais je me souviens en 2002 de l'élection parlementaire qui a amené l'AKP au pouvoir. On s'est retrouvé avec deux partis à l'époque, qui était le GEP d'un côté et l'AKP de l'autre. Donc on était dans un système parfaitement bipolaire. Et à partir de là, comme le GEP est un parti qui a beaucoup de mal à se renouveler du point de vue programmatique, qui a aussi ses propres luttes internes, l'AKP est devenu ce parti attrape-tout qui arrivait à saisir tout le marais des électeurs turcs. Et il a eu 20 ans de succès électoraux pratiquement sans discontinuité. Et le problème aujourd'hui, c'est toujours cette sclérose programmatique et éventuellement de personnalité du GEP. C'est-à-dire que nous, ce qui nous a frappé, on a regardé là, à l'IFRI, la façon dont Özgür Özel, le nouveau patron du GEP, a commenté l'élection sur ses réseaux sociaux. Il n'a jamais félicité İmamoğlu. Donc on est dans une posture officielle.
Donc le maire d'Istanbul. Hein.
Mais oui, pas le nouveau, il était déjà maire depuis les dernières élections. Mais on est déjà dans une nouvelle course entre ces personnalités qui émergent. Et Ekrem İmamoğlu a beaucoup d'ennemis, y compris au sein de son propre parti, parce qu'effectivement, il est brillant, qu'il est charismatique et que tout le monde dit que c'est un candidat naturel. On le dit depuis le début, depuis trop longtemps, finalement.
Marc Semo.
Alors, justement, parce que ce qui est frappant, c'est que dans le GAP, c'est les deux hommes forts, ceux qui peuvent incarner quelque chose et gagner une présidentielle dans un système qui est un peu inspiré de la Ve République, donc où il s'agit d'avoir la stature et d'endosser l'habit, les deux, c'est d'un côté İmamoğlu, et İmamoğlu, il vient de la droite libérale à l'origine. c'est un ancien de la nappe. L'autre qui a des chances énormément, c'est Mansour Yavaş, qui lui vient de la droite.
Le maire d'Ankara,
qui lui vient de l'extrême droite nationaliste. Donc c'est quand même significatif que les deux poids lourds ne soient pas des kémalistes du GAP d'origine contrôlée.
Oui, certes.
Mais il ne faut pas oublier cette réalité, que quelle que soit la décennie, la réalité de la Turquie, c'est que c'est un pays qui vote à 60-65% conservateur, traditionnel, et que ça a été toujours le cas. Ce n'est pas un pays qui est moderne, ouvert d'esprit dans sa totalité. Il y a quand même une Anatolie, il y a quand même les régions rurales. Moi, ce que je retiens, en un sens, depuis dimanche, c'est deux choses. Un, c'est surtout les femmes. Aujourd'hui, à ces élections qu'on a eues, il y a eu 11 maires femmes dans 81 provinces, ça c'est historique, dont 6 sont issues du CHP, républicain, 4 du parti politique pro-kurde, DEM, et une seule du parti de AKP de Erdogan. Ça dit beaucoup aussi de la vision que Erdogan et AKP, dans ces dernières années, ont eu de la place de la femme. Et je pense que quel que soit le temps, le pays, le changement aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, vient des femmes. Et c'est ce changement qu'on voit en Turquie. Et la deuxième chose, depuis mardi, dans le sud-est de la Turquie, dans la région kurde, il y a un mouvement qui est exemplaire pour toute la Turquie qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le régime turc a essayé de mettre un kayyum, c'est-à-dire d'une façon illégale de dire au parti, aux mairies c'est le parti pro-kurde qui a gagné, et de dire non, vous ne serez pas maire, vous les Kurdes, on va nous-mêmes choisir à pointer en un sens des maires. Choisis par le régime, qui sont proches de AKP. Il y a eu de telles protestations, il y a eu une telle solidarité, que même, quand vous regardez les réseaux sociaux, avec les amis avec qui j'ai parlé sur le terrain, qui ont dit, s'il n'y a pas de démocratie dans la région kurde de Turquie, il n'y aura pas de démocratie à Istanbul, à Izmir, à Ankara. Il faut qu'on soit un pays de 88 millions unis. Et il y a quelques jours, le régime a laissé tenir tête. Et le maire kurde qui a été élu a pris sa place, son siège.
Pour préciser, il s'agit donc du maire de la ville de Van, hein, Abdullah Zeydan, qui a été élu à 55%, candidature qui n'a pas été validée, enfin victoire qui n'avait pas été validée, et qui l'a été finalement hier soir, hein, je crois, Dorothée Schmidt.
Oui, alors effectivement, c'était un gros enjeu à l'Est. Ça nous intéresse beaucoup de voir comment le processus politique qui a déraillé dans les municipalités kurdes qui avait voté pour le HDP, le prédécesseur de ce parti pro-kurde qui s'appelle DEM, c'est la même chose, mais les Kurdes sont obligés de changer de nom parce qu'à chaque fois les partis sont menacés d'interdiction. Donc finalement on a une espèce de métamorphose permanente de ces partis kurdes. Et il y a des dizaines de villes où effectivement des kayoums, des administrateurs ont remplacé les maires élus.
Alors là, on parle des élections de 2019.
Après 2019, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on a des élections donc, qui se passent dans ces villes kurdes, des élections qui sont plutôt libres quand même, même si à l'Est, c'est toujours quand même beaucoup plus sous tension et beaucoup plus compliqué. C'est quand même l'endroit où c'est un peu moins propre, peut-être, les élections en Turquie. Et on a notamment, donc, dans cette ville de Van, un maire du DEM qui est élu. Et immédiatement, l'AKP dit non. Il est sous le coup d'une procédure judiciaire, donc il ne pourra pas être maire. Et donc on va le remplacer par le deuxième arrivé sur la liste, 27% AKP. Formidable. Et là, émeute. Et en fait, en ce moment, c'est extrêmement tendu dans tout le sud-est. Donc la problématique de la démocratie turque, elle a beaucoup à voir effectivement sur la façon dont le gouvernement AKP et dont l'éventuelle alternative d'opposition va gérer cette question kurde. Or, c'est vraiment une épine terrible, y compris dans le pied d'Imamoglu au GEP, parce que lui s'est montré plutôt ouvert. C'est quelqu'un qui s'est montré auprès des maires kurdes qui ont été destitués. Or, la majorité de l'électorat du GEP n'est pas forcément, comme le disait Ayşe Gülsert, est peut-être plus nationaliste que ce que nous, on souhaiterait.
En tant que
démocrate européen.
C'est un point très très important et qui va définir l'avenir de l'opposition en Turquie. Lors des présidentielles et législatives de l'année dernière, le parti pro-kurde s'était allié avec le parti républicain. Ils avaient su se faire front commun pour tenter de proposer un candidat capable de renverser Erdogan. Cette stratégie a échoué. Que reste-t-il aujourd'hui de ce mouvement de rapprochement entre le parti de gauche pro-kurde et le parti kémaliste? Et justement, comment ces tensions entre des branches des républicains qui sont très nationalistes, qui ont plutôt, sont pro une politique un peu dure sur les Kurdes, et ceux qui sont plutôt favorables à une ouverture, et bien comment ces tensions travaillent-elles le parti?
Alors juste un point, c'est que les Kurdes n'ont pas été intégrés dans l'Alliance pour les législatives. Donc il y a quand même une extrême difficulté à intégrer cette problématique légale kurde dans le paysage politique turc.
Les Kurdes font autour de 25% de la population turque, d'accord? Quel que soit le régime qui va venir dans ce pays, ils sont obligés de prendre en considération, surtout en vue du travail que les Kurdes en Turquie ont mené, et des femmes. Il y a des co-maires, il y a des maires dans des villes kurdes où il y a un maire femme, une mère femme et un maire homme. Les Kurdes aujourd'hui en Turquie, depuis, je dirais, au moins 10 ans, au moins, mais ça a été aussi du temps dans les années 90, du temps de Leyla Zana, de Armée Turque, etc., sont en train de donner une leçon au CHP et à la Turquie entière, aux partis politiques, pour dire si vous voulez vraiment une démocratie dans ce pays, vous ne pouvez pas nous rayer de la carte. Moi, je me rappelle en 2015, au mois de juin, quand il y a eu les élections et que le HDP, dont Dorothée Schmidt parlait, qui était le précédent parti politique pro-kurde qui était avant DEM, quand ils sont rentrés avec plus de 13%, ils sont partis ce barrage qui est complètement pas démocratique des 10%, ils sont rentrés avec 13%. C'était une cause de célébration dans le pays parce que enfin, les minorités qui font ces 25% étaient entendues. Aujourd'hui, le parti politique DEM a pris autour de 6,5% au national. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce dont parlait Dorothée Schmidt. DEM, le parti pro-kurde, est à la quatrième place. À la troisième place se trouve Yeni Refah Partisi, Yeniden Refah, qui est un parti islamiste, qui est le parti politique précédent de AKP. C'est là où Erdogan a tout appris. Et ça montre à quel point, ce qui revient d'une façon très indirecte à ce dont parlait Marc Semo, c'est-à-dire qu'il y a un côté islamiste extrêmement religieux, pieux, qui est aujourd'hui quand même, malgré la différence, AKP a fait 35%, ce Yeniden Refah a fait 7%. C'est une différence qui est énorme. Mais une population qui est attachée à cette identité islamiste qui, moi, m'inquiète dans une Turquie aujourd'hui où c'est le troisième parti politique. On peut parler peut-être de ce qui se passera après Erdogan, après l'AKP, où je pense que ce parti politique va gagner un peu plus de place, malheureusement.
Marc Semo ?
Oui, alors il y a cette réalité d'une Turquie profondément conservatrice, religieuse, dont parlait Ayşe Gül. Bon, c'est un plus ou moins moitié-moitié. Mais est-ce que justement, pour l'autre moitié, est-ce que l'Europe continue à rester une perspective ? Est-ce que le GAP, là-dessus, joue vraiment cette carte-là ? Ou bien est-ce que, quelque part, l'Europe a déçu et aujourd'hui, y compris ceux qui ne sont pas pour l'AKP, qui ne sont pas islamistes, mais nationalistes, regardent ailleurs, justement, vers ce nouvel espace du Moyen-Orient, de l'Asie centrale, plus que vers l'Europe.
Dorothée Schmidt ?
Bien, puisqu'on a parlé de l'islamisme, il faut parler du nationalisme, qui est l'autre, le deuxième pilier de l'idéologie de la culture politique turque. Donc là, la bonne nouvelle, d'une certaine façon, c'est que les partis strictement nationalistes, et même le II parti qui est issu du parti d'action nationaliste, ont des mauvais résultats. Donc où est passé le nationalisme, puisque la problématique n'a pas été complètement résolue? Eh bien, il va certainement se réorganiser, aussi bien au sein de l'AKP qu'au sein du GEP. Et le GEP lui-même est un parti qui a un côté souverainiste national turc. Hein. C'est quand même le parti héritier d'Atatürk, donc je vous rappelle qu'il a mené ce que les Turcs appellent une guerre d'indépendance contre les forces d'occupation européennes au tout début des années 20 pour créer la République de Turquie. Donc j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait en réalité une méfiance extrêmement forte, même des élites économiques, culturelles de l'ouest de la Turquie, même stambouliotes, envers les Européens. Les Turcs ne se sentent pas acceptés et se sentent même assiégés En permanence par ces discours de valeurs extrêmement forts que nous leur renvoyons, cette incompréhension que nous avons vis-à-vis de leurs grands sujets nationaux qui sont les terroristes kurdes, la problématique de Chypre où les Turcs sont venus à la rescousse de la communauté turque en danger, la problématique de la Syrie où effectivement ils font face aussi à une sorte de pression kurde très forte mais à un danger sur toutes leurs frontières. Et puis sur la crise russo-ukrainienne, on n'a pas compris la position turque. La Turquie n'a pas voulu choisir en fait hein, clairement entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'elle est riveraine, elle est voisine de la Russie par la mer Noire et elle est voisine de l'Ukraine aussi par la mer Noire en réalité.
Et elle vend pas mal de drones aussi aux Ukrainiens.
Oui, mais alors elle a des commerces. Effectivement, elle a des moments de rééquilibrage vers l'Ukraine et vers l'OTAN, mais elle a des très gros enjeux économiques avec la Russie. Et donc cette espèce de mix très particulier d'intérêts nationaux de la Turquie, aujourd'hui plus aucun parti politique turc ne peut l'ignorer. Pourquoi ? Parce que l'AKP a construit la Turquie comme puissance. C'est quand même ça. Donc ça, c'est un héritage qui est positif pour le GEP en réalité. Donc ça veut dire que le dialogue avec l'Europe ne sera certainement pas facile à l'avenir non plus.
Pour répondre très rapidement à Marc Semo, je pense que oui, vous continuez à nous faire rêver, Marc Semo. L'Europe continue à faire rêver les Turcs. Je pense surtout, il y a eu une question d'humiliation. Faut pas oublier où les Turcs et Erdogan, dans les années 2008-2009, avec Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, se sont sentis assez humiliés. Mais moi, ce que je trouvais dans ces élections était intéressante, c'est le fait que la diaspora turque en Europe et dans le monde entier n'a pas voté. Je pense, au présidentiel, ils ont voté, ils n'ont pas pu voter pendant les élections municipales. Je trouve que dans le fait qu'on voit une telle victoire du CHP, on dit que c'est le fait que la diaspora en Europe, qui est assez pro-Erdogan, pro-AKP à 65%, le fait que leur voix n'a pas été comptée, ça montre aussi à quel point les Turcs qui vivent en Turquie, qui travaillent en Turquie, ne soutiennent beaucoup moins ce régime actuellement en Turquie que la diaspora qui, quel que soit le pays, on a toujours tendance à idéaliser le pays d'origine dont on quitte. Donc je pense que quand on parle aux jeunes qui aujourd'hui finissent le lycée ou l'université en Turquie et on leur dit « alors vous voulez aller où ?», la réponse c'est l'Europe, les États-Unis ou le Canada. Donc il y a ce côté occidental qui nous fait toujours vibrer, je pense.
Et là, Ejegül Sert, vous parlez de la population turque. Pour revenir sur les dirigeants politiques, Dorothée Schmidt, vous disiez l'héritage de la construction de la Turquie comme puissance laissée par Erdogan, il va peser sur l'ensemble des dirigeants politiques turcs. Est-ce que ça veut dire que la façon dont la Turquie aujourd'hui se positionne sur la scène internationale, et on l'a vu typiquement dans sa place dans l'OTAN où elle n'a pas hésité à monnayer son alignement en échange de concessions, que ce soit des ventes d'armes, que ce soit la politique menée envers les opposants kurdes par exemple en Suède, cet héritage-là d'une diplomatie transactionnelle, pour employer un grand mot, l'opposition aurait du mal à s'en défaire.
Une diplomatie du bras de fer plutôt que de la transaction, mais je voudrais faire une petite plaisanterie pour revenir sur ce que disait Ejegül tout à l'heure sur les endroits où les jeunes Turcs rêvent de partir. Il y a quelques années, ils voulaient partir en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle s'ils veulent à nouveau repartir en Europe ou aux États-Unis. C'est encore ce rééquilibrage dont on parlait entre Est et Ouest. Je crois que effectivement sur l'OTAN, on a vu sortir cette espèce de fondamental qui est qu'à chaque fois, si vous regardez les sondages que fait le GMF, le German Marshall Fund, sur les amis, les ennemis de la Turquie, vous vous rendrez compte que les Turcs sont extrêmement américanophobes. Les États-Unis et Israël sont leurs premiers ennemis. Alors bon, Israël, on peut comprendre en ce moment, au vu de ce qui est la difficulté relationnelle entre les deux pays. Les États-Unis, c'est quand même assez étrange, dans la mesure où c'est quand même l'allié numéro un de la Turquie. C'est certainement le pays qui compte le plus pour les gouvernements turcs. Je crois que l'Europe, elle est passée complètement au second plan au cours des dernières années. Notamment parce que la Turquie s'intéresse davantage à toutes ces enceintes internationales que sont les BRICS, même si elle n'en fait pas partie, parce qu'évidemment les autres la tiennent un peu à l'écart. C'est un peu trop compliqué d'avoir cette Turquie qui est extrêmement ambitieuse. Le G20, mais toutes ces instances qui représentent ce qu'on appelle à tort ou à raison, le sud global, la Turquie a envie d'avoir sa place dans ce nouveau monde qui émerge, dans le sillage d'un désengagement américain du Moyen-Orient, tout en souhaitant rester le relais américain au Moyen-Orient, tout en ayant une bonne relation avec la Russie, parce qu'effectivement, c'est un ennemi historique, mais c'est quand même aussi un partenaire très important. Donc tout ça, c'est un équilibre qui est très particulier du fait de la position géographique de la Turquie, mais aussi du fait de son héritage impérial, on en a déjà parlé, et de ses capacités, notamment militaires. C'est la première puissance militaire de la région aujourd'hui. Du Moyen-Orient, hein, je ne parle pas de l'Eurasie au sens large.
Vous écoutez Culture Monde, Dorothée Schmidt, chercheuse à l'IFRI et Aysegül Sert, journalistes, sont nos invités pour parler de la Turquie après la victoire de l'opposition aux élections municipales. Comme chaque semaine, nous sommes en partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. C'est la bulle cartooning.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé Joep Bertrams, un caricaturiste néerlandais. Il s'intitule « La vilaine urne électorale ». On y voit le président Erdogan blessé à la main droite, les doigts ensanglantés et enroulés dans sa cravate en guise de bandage. Son bras de chemise est déchiré. Derrière lui, une féroce urne électorale dotée d'une bouche à la place de la fente où l'on glisse normalement les bulletins de vote. On la voit qui montre les dents, l'air menaçant, du sang dégouline de la boîte. C'est celui du président Erdogan qui vient visiblement de tenter de déposer son bulletin et qui s'est fait mordre. Un dessin à découvrir sur le fil du compte Twitter de Culture Monde et sur notre page internet. Une réaction à cette caricature, Aysegül Sert.
Moi, j'ai tellement de respect pour les caricaturistes qui, nous, on passe 45 minutes à essayer de raconter la Turquie, ce qui se passe, et eux, ils le font en quelques lignes extraordinaires. Donc, merci. Erdogan a dit, président Recep Tayyip Erdogan a dit que ces élections étaient ses dernières élections. C'est-à-dire que normalement, c'est un mot-clé, il ne va pas se présenter à nouveau. C'est-à-dire que les prochaines élections législatives et présidentielles en Turquie, normalement, sont en 2028. Donc, les Turcs n'auront pas à voter à nouveau. Donc, cette main peut être... cette main blessée qu'on voit sur cette caricature, normalement, peut se régénérer en un sens. La question que moi, je me pose depuis un moment, c'est que j'entends derrière les coulisses depuis quelques jours, c'est qu'il se peut qu'il y ait des élections anticipées, qu'on n'attendra pas 2028 pour qu'il y ait des élections à nouveau. Et ça, ce sera demandé de la part de Erdogan, un, s'il ne change pas la constitution pour que lui, il se présente à nouveau, ou deuxièmement, pour donner au CHP, au parti républicain turc, moins de temps pour montrer que, en termes de politique, économie, changement dans les villes qu'ils ont gagnées, pour qu'ils puissent faire les changements dont ils veulent faire, qui est dans leur programme. Voilà.
Je vous en prie, je voudrais qu'on revienne aussi sur la question des villes, puisque c'est les élections municipales qui se sont déroulées, Dorothée Schmidt. Dans quelle mesure le pouvoir municipal aujourd'hui en Turquie constitue un contre-pouvoir à l'État central? Et on parlait tout à l'heure de la problématique très dure de ces maires kurdes qui ont été destitués et remplacés par des administrateurs. Qu'est-ce que ça dit d'une crainte du pouvoir, de ce que, encore une fois, voilà, pourrait représenter ces villes de menaces contre l'État?
Voilà, en Turquie, c'est un pays très centralisé. D'ailleurs, une partie des administrateurs, c'est simplement les préfets qui ont été nommés dans les villes à l'Est. Jusqu'à présent, comme Marc Semo y a fait allusion en début d'émission, jusqu'à présent, le pouvoir local, c'était l'appui de l'AKP. C'était l'ancrage local de l'AKP qui était le secret de son ressort, de sa résistance politique permanente. Donc c'est là aussi qu'on a une surprise qui est extrêmement intéressante. C'est effectivement de voir si ces nouveaux maires JP dans les villes qui sont passées au JP, ou ces nouveaux maires des autres nouveaux petits partis, vont arriver à s'installer aussi bien, aussi fortement que l'AKP. Il y a un point que je trouve aussi assez intéressant, c'est que les dernières élections, on a vu qu'il n'y avait pratiquement pas d'effet du tremblement de terre. On a beaucoup dit que le gigantesque tremblement de terre de février 2023 allait faire perdre les élections à l'AKP. Non, l'AKP a eu des très bons résultats dans les provinces qui ont été frappées par le tremblement de terre. C'est plus le cas cette fois-ci. Il y a quelques régions qui ont basculé.
Donc
il y a quand même, voilà, Adıyaman, Urfa. Donc il y a des lieux où quand même la lassitude se fait jour aussi, parce que l'AKP n'a pas fait ce qu'il avait à faire, et il a été quand même mis en cause sur cette question de la construction très fortement. Je vous rappelle que le candidat à Istanbul, c'est quelqu'un qui avait fait toute sa carrière à Toki, qui est l'administration qui est chargée de construire des logements sociaux à Istanbul, qui est responsable de beaucoup de magouilles, de choses extrêmement peu claires sur des préemptions de terrain. C'est un peu une machine à blanchir de l'argent.
Et donc, d'ailleurs, la corruption, ça a été un des thèmes centraux. Alors, il y a eu la question de l'inflation, vous en avez parlé, mais la corruption, visiblement, a été un thème central, et notamment du challenger de l'AKP, le parti islamiste, nouveau parti de la prospérité. Comment ce sujet s'est-il ancré dans le débat public?
Alors, je veux dire, je suis à tout petit point, c'est que c'est un point typique de tout l'agenda des partis islamistes. Quand l'AKP est arrivée au pouvoir, la corruption était en tête des sujets. Deuxième point, quand on est en période d'absence de croissance, la corruption est un sujet. Quand il y a de la croissance, c'est pas un sujet, parce qu'on arrose et tout se passe très bien.
Aizégulsert, je pense que la réponse a été donnée. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que dans cette excitation que j'ai pour mon pays natal depuis plusieurs jours, depuis ces élections, je trouve que déjà ça montre que la Turquie est capable d'aller vers un élan démocratique plus libre où l'état de droit peut prendre sa place. Mais il y a un énorme travail que doit poursuivre le CHP. C'est-à-dire que le problème avec le CHP, le Parti républicain qui a été victorieux, c'est qu'ils sont tombés à plusieurs reprises, dont ce dont parlait Dorothée Schmidt, dans cette veine extrêmement, j'allais dire patriotique, mais c'est même pas ça, c'est nationaliste militaire. S'ils n'arrivent pas à montrer que la richesse et la grandeur de la Turquie restent dans le fait qu'il y ait des gens d'origine arménienne, grecque, alévie, kurde, des femmes, et qu'ils tombent dans cette idée de polarisation, le CHP aurait été victorieux, mais n'aurait pas été capable de monter à la hauteur du potentiel de ce pays. Et ça, c'est quelque chose qu'ils doivent sans arrêt se rappeler, de ne pas tomber dans ce nationalisme, mais dans cette Turquie qui a un grand potentiel.
Merci, merci beaucoup à toutes les deux. Aizégulsert, journaliste correspondante de plusieurs journaux en Europe et aux États-Unis, également enseignante à l'école de journalisme de Sciences Po. Merci beaucoup. Dorothée Schmidt, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient d'Olifree. La Turquie en sans question, votre ouvrage paru chez Dalandier qui a été réédité l'année dernière. Merci beaucoup, Marc Sémon. On se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouverez pour une nouvelle série sur les maîtres du renseignement. Il sera question de la montée en puissance des services chinois, de la CIA qui se retrouve au cœur du jeu politique américain, de la Russie bien sûr, et des start-up du cyber-espionnage en Israël. Et dans un instant, les midis de culture.